Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc l'émission s'appelle Regarde ailleurs. Regarde ailleurs, c'est cette envie d'élargir son regard sur le monde à travers différentes expériences de vie. Donc je donne souvent la parole à des réalisateurs, des écrivains, des voyageurs, des musiciens. Kelly, je t'ai vu là sur un festival et ce que j'ai observé était assez magique. La manière dont tu as réussi, par ta musique et par le verbe, à toucher des centaines de personnes qui étaient présentes à t'écouter. Donc tu chantes des mantras, des chants dévotionnels. On y parle d'amour, on y parle de connexion, de vivre ensemble. Le message est positif et puissant. Donc j'ai envie de revenir un peu sur toi, ton itinéraire de vie, ton enfance, ton éducation, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu t'es mise à prendre une guitare et à faire des chants, ces chants sacrés que tu partages aujourd'hui dans différents festivals. Donc quelle est la petite Kelly enfant, dans quel contexte a-t-elle grandi et qu'est-ce qui t'a amené tout doucement à glisser vers ce que tu es devenue aujourd'hui?
Alors la petite Kelly enfant, c'est une petite Kelly déjà qui a toujours aimé chanter, qui a toujours fait de la musique. Donc je fais du piano depuis toute petite. Mon père travaille dans la musique, donc j'ai toujours été avec lui voilà, sur scène, très curieuse des sons, des instruments, etc. En contact avec les musiciens et cette vie d'artiste. Et en même temps, c'est une petite Kelly aussi qui est énormément dans la prière, dans la dévotion. Donc moi, je viens d'une famille juive assez religieuse du côté de ma mère. Et donc, de par moi-même, en fait, très jeune, j'ai décidé de prendre ce chemin très religieux jusqu'à mes 18 ans, donc vraiment dans la prière, dans la dévotion, ce que je touche encore dans mes espaces aujourd'hui de cercle et de concert. Je pense qu'on retrouve énormément cette notion de prière et de dévotion qui m'habite toujours. Et voilà, après, à partir de mes 18 ans, grosse remise en question de qu'est-ce que l'amour et comment me laisser traverser par la vie. Et j'ai pas trouvé forcément mes réponses dans la religion, ou en tout cas la manière dont je le vivais. Et donc voilà, après plein de questions sont arrivées, plein de réponses. Pas forcément des réponses, mais plus de questions même, je dirais. Une évidence qui traverse les cellules. Et là, il n'y a plus besoin de questions, il n'y a rien. Il y a juste ça, et ça respire et ça sourit. Et voilà.
Je reviens à cette éducation religieuse, comme tu dis. Qu'est-ce que tu entends par éducation religieuse? Parce que la religion peut être un très beau message, mais peut aussi être très enfermante quelquefois. Donc comment est-ce que toi tu l'as vécu enfant? Parle-moi de ta notion de la foi. Qu'est-ce que c'est que pour toi la foi? Et comment est-ce que tu as vécu ta religion?
Oui, alors je dirais il y a vraiment ces deux parties dans la manière dont je l'ai vécu. Il y a cette partie hyper positive qui est vraiment aujourd'hui m'a donné vraiment la notion de la foi, et je sens que ça m'habite partout aujourd'hui, dans tout. Il y a vraiment cette foi, et c'est cette foi qui me fait traverser tout ce que je vis. Et en même temps, je pense que, parce que je pense que je suis un peu extrême quand je décide quelque chose, je vais vraiment au bout. Et donc j'étais religieuse, mais à l'extrême presque, on va dire ça. Et oui, je peux le dire que moi je le vivais vraiment du côté de la peur. Je pense que beaucoup ne le vivent pas comme ça, mais moi je le vivais comme ça. Et jusqu'au moment où je pense que j'étais tellement au bout, trop de peur, et je me suis dit non, l'amour, le divin, pour moi en tout cas, c'est pas ça.
Pourquoi du côté de la peur? Je vois pas, je comprends pas.
Du côté de la peur, parce que je le vivais avec beaucoup trop d'injonctions, en fait. Beaucoup de règles, beaucoup de règles. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, fais-le comme ça, prie de cette manière, utilise ces mots-là. Non, tu dois pas faire ci tel jour, et tel jour tu dois faire ça, et puis tu dois aller là-bas pour prier. Pour moi, en fait, c'était une telle évidence, cette universalité, que notre temple, c'est notre corps, d'abord. Et je sais pas, il y a quelque chose de très universel dans mon être, et d'une évidence qui n'a pas besoin qu'on me dise quoi faire, quand et comment. J'ai l'impression presque que ça me sépare de moi-même au final.
Mais comment est-ce que tu vivais ça enfant? Parce que tu avais des copains, des copines, et tu vois bien que dans des familles différentes de la tienne, ça se passe peut-être différemment aussi en termes de religion et de croyances.
Alors pendant mon enfance, on va dire que je le vivais bien, je pense. J'étais un peu même le modèle, un peu, tu sais, de ma famille. Enfin, dans le sens où, voilà, j'étais le plus. C'est Kelly, c'est celle qu'il faut suivre, etc. Mais à un moment donné, voilà, j'ai tout remis en question. Et, et avait cette soif de connaissance énorme. Et là, ça a commencé pour moi un chemin voilà, d'introspection énorme et de solitude et, de, et ouais, un chemin d'initiation en fait, de moi avec moi-même et à dévorer les livres, à cette soif de comprendre la vie jusqu'à ce que je me rende compte que c'était déjà là depuis toujours en fait.
Kelly, à 18 ans, tu disais, quand tu commences un peu à remettre en question pas mal de croyances ou peut-être de principes religieux, donc comment est-ce que tu fais ? Est-ce que tu t'éloignes complètement ou est-ce que tu essaies de concilier les deux avec ta nouvelle foi ou avec ta nouvelle prise de conscience ? Voilà, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un rejet total ?
Ça, au début, ça a été pas très bien accepté par ma famille, en tout cas une partie de ma famille, pas tous. Mais voilà, c'est sûr, c'est pas très simple quand on est né dans une certaine culture, etc., de voir une des personnes de la famille qui s'éloigne ou en tout cas qui, voilà, ils m'ont senti que je m'éloignais, que je faisais autre chose. Kelly qui commence à chanter des mantras, qui commence à chanter en sanskrit, qui commence à faire le namasté, etc., qui commence à faire sa formation de yoga, enfin, ils ont eu peur je pense, surtout que moi j'expliquais rien de ce que je faisais. Donc voilà, je suis partie vivre chez mon père. Et c'est là où ça a commencé un autre cycle de ma vie. Mon père qui est chef d'orchestre de musique et qui est très initié à tout ce que je fais aujourd'hui, mais sans vraiment me l'avoir dit clairement. Et après, a démarré un autre cycle, voilà, où vraiment dans la musique, dans la guérison, dans la liberté.
Quand tu dis que tu es parti vivre chez ton père, parce que tes deux parents étaient juifs.
Mes deux parents sont juifs, oui.
Et donc tu es parti vivre chez ton père, et donc lui, il a accueilli finalement la direction un peu différente que tu prenais.
Oui, exactement.
Au creux de ton oreille. Laisse-moi te conter l'histoire du vivant, l'histoire de la présence divine, du frémissement. Chacun la nomme à sa façon. Cette présence, je la nomme amour. Cet amour qui ravage, pardonne, embrasse, soigne et berce tout sur son passage. Si la rencontre amoureuse avec le vivant se présentait à moi à chaque instant, une rencontre avec absolument tout, le souffle, le silence, la lumière, ou encore l'humain, pour ne faire qu'un. L'intensité est proportionnelle, je le sens au dévoilement de mon cœur. Je suis capable de mettre mon âme à nu, comme s'il m'était demandé pour la vivre, de lâcher, déposer, démasquer, dévoiler, de m'abandonner complètement, le temps d'un instant. Un instant qui dure une éternité.
Aujourd'hui, tu es là pour chanter des mantras. Donc parle-nous de ta rencontre avec les mantras. À quel moment tu as fait rentrer ça dans ta vie ? Comment est-ce que tu les as découverts ? Donc j'ai bien compris que tu avais un parcours musical déjà très jeune. Tes parents t'ont initié à la musique, notamment ton papa, mais peut-être pas aux mantras. Donc comment est-ce que c'est arrivé à toi et pourquoi est-ce que ça a retenu ton attention plus que d'autres formes de musique ?
Alors en fait, donc à mes 18 ans, quand je me suis poser toutes ces questions, etc. Il y avait un espace en moi qui souffrait en fait parce que je me sentais seule, je me sentais pas comprise du tout de ce monde. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé à écrire des chansons. Je passais des nuits au piano à écrire, à chanter. Et je connaissais pas encore vraiment les mantras. Après j'ai fait ma formation de yoga à la même période et j'ai commencé à rencontrer les mantras. J'ai participé à un premier kirtan, c'est un bhajan, et et là je me suis dit c'est incroyable quoi, vraiment cette communion entre les gens, cet espace d'amour par le chant, et moi qui faisais du chant autrement, bon c'est resté fort ancré en moi. Puis après j'ai commencé à découvrir pas forcément les mantras mais les chants médecine en fait, tu vois, Peya, Ajit Kaur, etc. Et là, je me souviens le jour où j'ai découvert Blessed We Are de Peya. Oh, j'ai pleuré. Puis après, j'écoutais Remember de Omkara. Alors là, je me souviendrai toute ma vie. Je crois que j'étais dans un café, j'ai écouté ça et je me suis dit, ok, c'est toutes mes cellules en fait. C'était comme si je savais déjà, tu vois, ce que je voulais faire. Et là, c'était plus de doute à l'intérieur de moi, même si j'avais encore beaucoup de chemin pour arriver et j'ai pas fini, mais voilà, pour savoir et sentir et mettre dans la matière. Mais en tout cas, dans mes cellules, c'était ok, c'est cette direction et j'avais une soif, quoi. Waouh, c'était.
Alors, ce qui est rigolo, tu me disais avant, bon, je veux quand même qu'on définisse le mot bhajan et kirtan. Kirtan, toi, ça te paraît, ça fait partie de ton quotidien, donc tu sais ce que c'est. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un bhajan et un kirtan ?
Alors, kirtan. Ça veut dire répétition, donc en fait on va principalement chanter des mantras en sanskrit, et on va les répéter, on va les répéter, on va les répéter, on va les répéter. Mantra veut dire protection du mental. En fait, on se protège du mental. On répète tellement qu'à un moment donné, le mental, il agit plus et on descend dans cet espace du cœur. Et ouais, clairement, au début, je chantais que des mantras, en fait. Pendant très longtemps, des années, je faisais des cercles de chant que de mantras. Et après, je pense que mes racines sont revenues, mon envie aussi de chanter dans d'autres langues aussi. Toi, maintenant, je chante en hébreu, en espagnol. J'avoue, j'aime énormément chanter en hébreu parce que ça fait partie de moi. Et voilà, et aujourd'hui, j'aime composer, chanter mes chants et les mettre un peu, je dirais pas sous forme de mantra, mais presque en fait, je fais répéter les gens sur des mots très très simples. Et il y a tellement d'amour dans cet espace-là, je dirais que tout se soigne presque.
Ici, maintenant, nous chantons à l'unisson, unissons nos vibrations. Vibrations d'amour, vibrations de lumière, vibrations de joie, vibrations de grâce, vibrations de grandeur, vibrations de splendeur. Vibrations d'amour, vibrations de lumière, vibrations de joie, vibrations de grâce, vibrations de grandeur, vibrations de splendeur. À la présence universelle, celle qui nous traverse, nous unit en cercle, celle qui nous rend joyeux et amoureux. Il n'y a plus de peur, plus de rancœur, juste de la douceur au creux de mon cœur que je répands au présent.
Tu me disais avant en off que tu étais dentiste, ou tu avais fait en tout cas médecine et dentaire. Donc ça, c'est une profession qui est quand même très rassurante pour des parents, en tout cas beaucoup plus que d'animer des cercles de chant.
Oui, oui, ça c'est sûr. Mais en fait, si tu veux, au début, tu sais, quand on sort de la terminale, je ne savais pas ce que je voulais faire, je voulais juste soigner les gens. Tu vois, ça c'est drôle, je voulais soigner les gens, mais je savais pas comment, rien. Donc je me suis dit, bah allez, vas-y, je vais faire des études de médecine. Puis après, j'en suis venue à faire dentiste. Mais bon, très très vite, j'étais pas heureuse du tout dans ces études. Je voulais arrêter tout le temps, mais bon, j'ai continué. Jusqu'au jour où c'était plus possible de continuer, parce que ça mettait presque en péril. Ben oui, ma droiture et presque la réceptivité de la vie en moi quand je chante, etc. À un moment donné, ça peut plus traverser si c'est pas hyper cohérent en fait avec dans tout dans ma vie. Et donc voilà, il y a 3 ans, j'ai fait le choix d'arrêter complètement et de prendre la route.
De prendre la route. La route vers quoi? Vers où?
La route vers moi et l'autre. Prendre ma guitare et semer, en fait, tout simplement. Je dis ça de manière simple. Après, j'avoue, c'est assez compliqué, au final, je trouve, de vivre aussi nomade et aussi dans le mouvement. Mais je donnerais toute ma vie, je pense, pour ces instants-là, comme tu viens de vivre. Et ouais, je vis pour ça.
Alors, tu t'es mise à animer des cercles de chant. Qu'est-ce que c'est qu'un cercle de chant et comment est-ce que tu as commencé? Parce que donc la guitare, ok, donc quel a été le premier mantra? Est-ce que tu as commencé par écrire ou est-ce que tu as répété des Om Namah Shiva ou des mantras qui sont déjà très connus? Comment tu as commencé? Donc peut-être pour inspirer celui qui se sent touché par cette musique et qui a aussi envie peut-être d'aller vers ça, en tout cas d'animer quelque chose ou de le partager.
Je disais, j'écrivais et je composais déjà seule moi, mais je ne faisais pas écouter mes chants, j'étais trop timide, je les gardais que pour moi. Et par contre, à côté, je chantais des mantras et je commençais tout doucement à les partager à la fin de mes cours de yoga, donc vraiment voilà, timidement, jusqu'au jour où en fait, c'était une telle évidence, ça prenait de plus en plus de place, en fait, la musique dans le cours. Je faisais beaucoup de voyages sonores, en fait, c'était ça qui m'animait le plus. Et voilà, et de plus en plus, jusqu'à faire des premiers cercles de chant, deuxième, troisième, et ne plus m'arrêter, quoi.
Comment est-ce que tu trouves des gens pour tes cercles de chant quand tu commences? Aujourd'hui, on avait une salle avec, je sais pas, plusieurs centaines de personnes, mais faut les trouver, ces centaines de personnes, pour venir à toi. Donc, comment est-ce que ça s'est passé pour toi?
Honnêtement, je me charge pas, c'est la vie qui se charge pour moi. Vraiment, vraiment, je le sens fort. En fait, j'ai cette sensation forte que plus on s'abandonne à la vie, et plus la vie s'abandonne à nous, et on est au service, donc la vie est à notre service et c'est ensemble. Donc ça ne peut pas être autrement parce que je me mets tellement au service que je fais pas ça pour moi, je viens, c'est pour tous, c'est pour la terre. Et donc, c'est mon manager.
Donc là, on revient à cette notion de foi. Donc je vais t'interroger sur ta foi. C'est quoi ta foi aujourd'hui, Kelly? Sachant que tu as eu cette éducation religieuse, que tu as doucement essayer d'émanciper à travers des lectures, des rencontres et tout un cheminement personnel. Donc aujourd'hui, si je devais t'interroger sur ta foi, quelle est-elle ?
Donner une voix. Donner une voix à ce que nous sommes, à ce que l'on est. Donner une voix à notre terre, à notre ciel.
Ma foi, je dirais que c'est vraiment ça qui me permet de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Enfin, je remets toute ma vie, je la remets dans les mains du ciel. Pourtant, parfois, ça peut être compliqué à sentir, mais dans mon corps, j'offre tout, quoi. Vraiment, c'est même pas moi, c'est même pas pour moi, c'est je sais pas, c'est pour le vivant, c'est pour la terre, c'est pour l'amour. Ça peut paraître un peu, je sais pas comment dire, mais...
Un peu décalé par rapport au monde matériel dans lequel on vit. Il y a quand même toujours cette réalité-là. Donc comment est-ce que tu fais pour cadrer à des codes, à des normes sociales et aussi à une vie économique nécessaire pour pouvoir continuer à vivre de ses rêves ou de vivre simplement sa vie?
Mais justement, c'est quelque chose que j'aimerais, qui est important pour moi, c'est d'être bien ancré dans sa terre, vraiment dans son corps, dans ses racines, parce que sinon on ne peut pas être dans le ciel. Et ça, je le sens vraiment, que plus je descends dans mon corps, ne serait-ce que par la danse, ne serait-ce que par la terre, la connexion avec, je ne sais pas, cette notion vraiment de descendre dans mon ventre en fait, profondément, et plus j'ouvre mes antennes qui s'ouvrent vers le ciel. Je ne peux pas que ouvrir mes antennes vers le ciel, ça ne marcherait pas. Et d'ailleurs, le ciel ne pourrait même pas descendre dans la matière si j'avais pas cet ancrage fort. Et ça, je le sens fort, cet ancrage, peut-être de par mes études, où je suis très, tu vois, je suis vraiment pas un peu m'étourner, c'est moi qui organise tout, je gère tout, c'est pas juste la petite fille avec la guitare qui vient sur scène et qui chante le ciel, tu vois, c'est, on chante le ciel, mais on est là, quoi, sur la terre, dans son corps. Et quand c'est difficile, on plonge dans ce qu'on est, dans ce qu'on traverse, on va voir, on s'assoit et on traverse, quoi. Et ça, c'est moi aussi, vraiment le phénix, quoi. Tous les jours, renaître, mourir et renaître.
Donc Kelly, cette foi qui t'anime, donc tu as réussi à tenir le public en haleine avec juste un mot, le mot amour. Je crois que c'était une des premières chansons que tu as fait. Qu'est-ce que ça représente pour toi ?
L'amour, ça représente la vie, la grande conscience, peu importe comment on met le mot. Mais l'amour, c'est ce qui traverse de partout, c'est ce qui habite tout, c'est ce qui est abondant de partout. Et cet amour, moi, c'est vraiment cette notion d'offrir tout ce qu'on est, en fait. Et d'offrir tellement qu'à un moment donné, il y a comme une révérence devant tant de grandeur et tant de mystère. Et là, la vie, elle nous traverse. Et je sais pas, il y a quelque chose de fort, vraiment, une sorte de grâce, d'amour, en fait, qui nous traverse. Et c'est cette sensation de bienveillance, de compassion. Et voilà, on n'est plus du tout dans une guerre d'ego, dans un truc de comparaison, de compétition. C'est juste, ok, on souhaite le meilleur pour tous et on grandit tous et on avance et on s'aime ensemble. Et voilà, quoi, c'est merveilleux.
Mais comme tu le disais aussi très justement, c'est pas juste le ciel, il y a aussi cette notion de la terre. Donc pour incarner ce rêve-là, cette réalité-là, tu bosses, il y a quand même beaucoup de travail derrière pour en arriver. Je sais pas si tu vis complètement de la musique aujourd'hui ou si tu veux aller vers ça, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de travail. Donc c'est peut-être bien aussi que tu nous en parles un petit peu de cette partie racine et ancrage qui est important pour pouvoir avancer vers le ciel.
Mais en fait, tous les jours, moi, honnêtement, tous les jours, c'est compliqué. Tu vois, il n'y a pas un jour où je me réveille et je dis « ouais, c'est super, super cool, quoi, tout est beau, tout est simple ». Et pourtant, voilà, je vis de ma passion, je fais voilà, presque que ce que j'aime, en fait, on va dire. Mais tous les jours, j'ai l'impression que d'être sur ce chemin du cœur, ça demande une exigence impressionnante, quoi. Et de plus en plus, là, j'ai l'impression, plus on avance, en fait, en ce moment... Et plus ça demande de faire le tri, ça demande de faire un ménage tous les jours, ça demande de renaître, ça demande de mourir, de laisser les peaux anciennes, les croyances qu'on avait hier qui sont plus ok aujourd'hui, d'ouvrir, d'élargir d'élargir notre manière de penser, de tenter, d'expérimenter, de se tromper, de recommencer avec beaucoup d'humilité. Et juste ce qui me vient, moi, c'est que vraiment ce chemin de dévotion à la vie demande de toujours se remettre en question et de toujours... en fait, je trouve que c'est assez courageux d'être aligné sur le cœur, sur le corps, sur les pensées, sur les actions. Et en même temps, je pense que c'est la plus grande des libertés et un cadeau, quoi, qu'on se fait d'abord à soi.
Il y a cette phrase que j'aimais bien, un gamin, qui disait « Ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves ». J'ai l'impression que tu l'incarnes un petit peu, cette phrase-là.
Oui, je vis mes rêves. Et en même temps... c'est marrant parce que depuis toujours, il y a vraiment cette notion de... oui, je vis mes rêves, mais c'est comme si c'était une évidence, quoi. Je ne fais pas pour moi, c'est... Je suis au travail, quoi. Je suis au travail.
Je m'abandonne à toi, remplis-moi de toi et montre-moi la voie de l'indicible, d'ici tu entends, je t'appelle, et même si
à cette éducation dont tu parlais, très religieuse, donc tu as fait un peu un pas de côté. Donc comment est-ce que c'est perçu aujourd'hui par ton papa, ou par ta maman, ou par ta famille, ou par tes proches?
Bon, alors aujourd'hui, moi j'avoue, j'adore chanter en hébreu maintenant. J'aime énormément les lettres hébraïques, le chant en hébreu. Mais après, voilà, maintenant je suis beaucoup plus... je suis plus religieuse, enfin en tout cas de ce que j'étais avant, mais religieuse, c'est ce qui est relié à Dieu. Donc je dirais que je suis très religieuse dans l'âme, mais plus pratiquante dans les... En tout cas, comme je l'étais avant, ça non. Et au début, ça a été compliqué et pas très bien perçu du tout. Mais je dirais qu'avec le temps, de me voir heureuse, en fait, de me voir profondément heureuse, et de voir ce que je fais, et de voir la joie, le sourire, et je pense que ça, c'est la plus belle preuve avec le temps. Ça fait quand même 10 ans maintenant, et avec le temps, ils disent ok, en fait, ok. Et puis maintenant, ils ont compris, tu sais, maintenant c'est un peu, ouais, bon, c'est bon, c'est Kelly, quoi. Maintenant, tu sais, tout est permis, c'est Kelly, quoi. Et voilà.
Et donc Kelly continue d'animer des cercles à Paris. C'est quoi aujourd'hui ta vie, si tu devais nous parler un peu de ton quotidien?
Alors maintenant, je partage moins de cours de yoga parce que je n'ai pas de maison fixe, donc je ne peux plus donner de cours de yoga. Mais je suis nomade, donc je bouge tous les jours, tout le temps. Et du coup, je donne des cours de yoga dans mes stages. En fait, je donne pas mal de stages et des retraites au Maroc et en France. Et là, j'enseigne le yoga, mais beaucoup moins qu'avant. Et maintenant, ce qui m'anime, c'est beaucoup le partage du chant. Okay. En tout cas, c'est aussi du yoga, mais pas le yoga postural, on va dire. Voilà. Ouais.
Ok, tu as dit un mot qui m'intéresse beaucoup, c'est le mot nomade, nomadisme. Donc là, tu es nomade en ce moment, tu n'as plus de pied à terre. Tu es complètement sur les routes de France avec ta guitare à chanter.
Oui, voilà, exactement. Depuis 2 ans et demi, voilà, je bouge beaucoup. Je dors chez les uns, chez les autres, chez les autres, chez la famille, chez les amis. Je bouge, en fait, tout le temps. Et je dors là où je chante. Voilà, donc là, je suis là aujourd'hui. Et puis demain, je prends la route. Et puis après, là, je vais donner une retraite la semaine prochaine pendant 5 jours. Puis après, je vais un week-end, je fais 2 festivals. Et puis voilà, j'enchaîne comme ça. Et j'essaye de suivre, d'entendre le chemin. Et j'avance comme ça.
Une retraite de quoi ?
Donc là, c'est une retraite où on fait donc beaucoup d'ateliers de voix spontanée. J'adore en fait aller dans des espaces où tout le monde ose sa folie, tu sais. Et puis il y a des choses qui sortent, il y a des pleurs, il y a des choses, c'est magnifique. Et en même temps, il y a beaucoup de danse libre. La danse est très importante dans ma vie. Il y a du breathwork. Je co-anime avec une amie incroyable qui s'appelle Jade. Donc voilà, elle va aussi beaucoup partager des cours de yoga, breathwork, beaucoup de chants ensemble. Ça s'appelle Vivant, voilà. Un groupe de 20 et on fait ça ensemble.
Je reviens toujours sur le mode de vie nomade, tout le temps dans le mouvement, dans le déplacement. Donc comment est-ce que toi tu le vis ça ?
Honnêtement, je t'avoue, c'est très fatigant. Des fois, j'en peux plus. Hein. Très souvent, je pleure. Enfin, on peut me voir, tu sais, toute lumineuse où tout est simple et facile. Mais je pense que voilà, un jour sur deux, je pleure. Un jour sur deux, j'en peux plus. Un jour sur deux, j'ai envie d'arrêter. Un jour sur deux. Voilà, parce que c'est hyper challengeant en fait, l'intensité d'être avec les gens, l'intensité de tout offrir, l'intensité de... J'ai pas le choix, je suis trop animée pour ça, je suis habitée par ce truc, c'est tellement grand, tellement magnifique et je me dois en fait d'être au service de ça, en fait je me dois d'honorer ce qui me traverse et c'est la plus belle chose que je peux faire.
Ouais, donc c'est comme si tu te sentais réellement au service de quelque chose de plus grand que toi.
Complètement, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. C'est pas moi, c'est vraiment le ciel. Pas le ciel, mais c'est cette force en fait qui me dépasse complètement et dont je sais pas grand chose, mais qui je sais est là, me traverse, m'habite et j'y crois.
À travers mon essence, j'accueille la présence, guidée par mes sens, j'avance. Au travers l'instant, je laisse la magie agir, agir. Dans le présent, pas à pas j'apprends, j'avance avec le temps, je gagne mon âme et je danse au cœur des flammes. Pas à pas j'apprends, j'avance avec le temps, je gagne mon âme et je danse au cœur des flammes. Je danse et je danse au cœur des flammes. J'incarne l'amour, le service pour me souvenir de qui je suis. J'incarne la vie, la joie pour ne faire plus qu'un avec toi. J'incarne l'amour, le service pour me souvenir de qui je suis. J'incarne la vie, la joie pour ne faire plus qu'un avec toi. J'incarne l'amour, le service pour me souvenir de qui je suis. J'incarne la vie, la joie pour ne faire plus qu'un avec toi.